Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Sébastien Krebs.
Bonjour et bienvenue à vous tous. C'est Charles Matin qui démarre avec toute l'équipe, avec Estelle Gaz. Salut Estelle.
Salut.
Ça va en forme ?
Très bien.
Et la voix est nickel là,
ça y est. Oui, ça y est, je l'ai totalement récupérée.
Prête pour le week-end, c'est vendredi, on a le moral, c'est la fin de la semaine. Allez, courage si vous vous réveillez pour aller bosser ou si vous rentrez de votre nuit de travail, on vous accompagne et vous êtes avec nous sur l'application RMC. Vous nous écrivez, on lit tous vos messages, vous allez dans l'onglet Direct Studio et vous êtes avec nous au 32-16, surtout si vous êtes Marseillais ce matin. Vous
êtes aussi heureux que les Parisiens de cette semaine.
Bah, ça fait quand même deux clubs français en demi-finale de Coupe d'Europe, le Vélodrome en folie hier soir à Marseille, au bout du suspense. On va y revenir dès le début du journal de 5h. Vous allez entendre l'ambiance là-bas. L'OM qui s'est donc qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa au tir au but. On vous attend, les Marseillais, au 32-16. Venez nous raconter la fête après cette saison. C'est presque inespéré quand même de se retrouver là dans cette position en Coupe d'Europe. Et puis on vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC pour réagir à notre débat du jour. Faut-il serrer la vis à l'école, être plus sévère avec les élèves perturbateurs, les fauteurs de troubles en classe? On vous attend pour commenter les pistes qui sont évoquées par Gabriel Attal, des nouvelles pistes.
Oui, hein, le Premier ministre, et qui était sur BFM TV hier soir, veut un sursaut d'autorité à l'école. Il veut durcir donc les sanctions contre les élèves auteurs de violences, de dégradations ou encore de mauvais comportements.
Avec donc ses idées, enlever des points sur les diplômes, les pénaliser sur leurs diplômes, le bac, le brevet, le CAP, les sanctionner aussi en imposant une mention sur leur dossier d'orientation, notamment pour Parcoursup, pour qu'on sache que ce sont des élèves qui ont été auteurs de dégradations, de violences ou de mauvais comportements. Alors, ils pourraient s'en débarrasser de cette mention et récupérer leurs points en faisant, par exemple, des travaux d'intérêt général. Qu'en pensez-vous ? On en débat tous ensemble ce matin. Pour certains syndicats, c'est une manière quand même de les étiqueter à vie, de pas pouvoir se racheter. Pour d'autres, c'est un moyen de serrer la vis dans un moment où ces mauvais comportements et ces violences peuvent se multiplier. On vous attend au 32-16, on en débat tous ensemble. Vous êtes parents d'élèves, vous êtes profs, vous êtes éducateurs, vous êtes au contact des jeunes. Vous débattez avec nous au 32-16 et on lit tous vos messages sur Direct Studio. Il est pile 5h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Charles Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La folie à Marseille qui continue son aventure en Europa League, qualifiée pour les demi-finales hier soir en éliminant le Benfica Lisbonne au tir au but. L'information de la nuit, c'est la riposte d'Israël. Des frappes contre l'Iran ont été menées ces dernières heures, de fortes explosions entendues, des drones abattus, c'est ce que disent les Iraniens. Et puis Gabriel Attal donc qui veut rétablir l'autorité auprès des jeunes et cibler les élèves perturbateurs à l'école.
Le Vélodrome a explosé hier soir à Marseille.
Voilà pour l'ambiance hier soir après la qualification de l'OM en demi-finale de la Ligue Europa. Au bout du suspense, hein, les Marseillais avaient arraché la prolongation en marquant à 10 minutes de la fin. Et il a donc fallu aller jusqu'au tir au but pour éliminer le Benfica. Florent Germain pour RMC. C'est un match à l'image de la saison de l'OM.
Oui, un match fou au cœur d'une saison pas comme les autres. L'OM est en demi-finale de Coupe d'Europe et personne n'imaginait une telle performance, tellement tout aura été compliqué depuis l'été dernier. Une élimination au tour préliminaire de la Ligue des Champions, trois entraîneurs différents, des réunions de crise avec les supporters. L'OM 9e de Ligue 1, frappé par des blessures en pagaille, a au moins gardé le caractère pour s'accrocher en Ligue Europa grâce à un Vélodrome qui n'a jamais lâché son équipe et avec un Jean-Louis Gasset qui a su ramener le calme et quelques bonnes idées tactiques dans la maison olympienne. Marseille se met à croire à un miracle puisqu'une victoire finale en Ligue Europa offre aussi une qualification directe pour la Ligue des Champions. Ce rêve passe par une demi-finale début mai contre l'Atalanta Bergame. Pas forcément de quoi faire peur aux Marseillais qui reviennent de très très loin cette saison.
Demi-finale, allez, le 2 mai à Marseille, demi-finale retour le 9 mai chez l'Atalanta qui s'est qualifié hier soir comme Rome et à Leverkusen. Ça fait 2 sur 3 pour les clubs français en Coupe d'Europe puisque Lille a été éliminé au tir au but hier soir par Aston Villa, scénario renversant puisque les Anglais ont arraché la prolongation dans les dernières minutes. Je vous donne les deux informations de la nuit à l'étranger. Sans doute la réponse d'Israël qui a donc lancé une attaque contre l'Iran. Cette nuit, les médias américains l'annoncent, représailles aux frappes du week-end dernier. Les Iraniens font état de fortes explosions dans le centre du pays. Défense aérienne activée. Le sud de la Syrie aurait également été touché selon un activiste sur place. L'autre information, c'est que les États-Unis ont bloqué là, ces dernières heures l'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU. Condamnation immédiate du Hamas et de l'autorité palestinienne. À 5h03 sur RMC, Gabriel Attal donc qui veut serrer la vis à l'école en ciblant les élèves perturbateurs et en rétablissant l'autorité auprès des jeunes. Le Premier ministre l'a répété hier, d'abord à Viry-Châtillon, puis sur BFM TV hier soir à l'occasion de ses 100 jours à Matignon et après de nombreuses affaires de violence impliquant des adolescents, Romain Cluzel.
Il faut rétablir le civisme et le respect de l'autorité. Le Premier ministre répète inlassablement son mantra et prend en exemple les proches des familles de victimes d'agression.
La principale victime de la violence des jeunes, ce sont bien souvent les jeunes eux-mêmes. Derrière, ce sont des destins qui sont brisés et des vies familiales qui sont complètement gâchées. C'est pour les jeunes qu'on s'engage.
Et parmi les pistes évoquées par le chef du gouvernement, un contrat assigné par les parents d'élèves à chaque rentrée ou encore une utilisation plus importante des internats. Gabriel Attal confirme également la mise en place d'une nouvelle sanction pour de jeunes délinquants.
Quand vous avez un jeune, un élève qui commence à dériver, on doit pouvoir lui appliquer une sanction qui est l'équivalent des travaux d'intérêt général qui aujourd'hui ne sont pas possibles en dessous de 16 ans. Ça rentrera en vigueur dès le retour des vacances de printemps.
Quant à l'accueil des collégiens de 8h à 18h, Gabriel Attal précise qu'il s'agit d'un accueil proposé, mais pas obligatoire, avec de l'aide aux devoirs ou des activités. Il sera mis en place dès la rentrée de septembre dans les quartiers prioritaires.
Un scepticisme des syndicats, on est de retour au temps des choristes avec la blouse blanche et l'autoritarisme. Voilà ce que dit le syndicat FSU NUIPP.
Et ça vous fait réagir, on vous attend ce matin au 32-16, notamment sur ces mesures annoncées, sanctionner ces élèves perturbateurs en leur retirant des points aux examens, en posant une mention dans leur dossier scolaire pour l'orientation. C'est notre débat ce matin, 32-16, l'application RMC.
Le scénario du guet-apens se précise à Grande-Synthe, trois jours après la mort de Philippe, 23 ans, roué de coups sur un parking du centre-ville par deux suspects âgés de 14 et 15 ans qui assurent lui avoir tendu un piège sur Internet, Julie Brault.
Oui, c'est sans aucun regret que les deux adolescents ont détaillé l'origine de cette bagarre meurtrière. Face aux enquêteurs, ils ont expliqué être les créateurs d'un faux profil virtuel, celui d'une adolescente de 14 ans créée sur un chat en ligne nommé Coco. Leur but, monter des guet-apens et s'en prendre à ceux qui tenteraient de rencontrer cette fausse mineure. Un stratagème qui aurait mené à l'agression de Philippe lundi dernier. Le suspect de 14 ans assure notamment l'avoir d'abord aspergé de gaz lacrymogène avant de le rouer de coups de pied, des coups qui ont continué de pleuvoir, y compris lorsque le jeune homme était inconscient, allongé sur le bitume. Désormais, les deux adolescents, déjà connus des services de police, devraient être présentés à un juge d'instruction dans la journée, en vue de leur mise en examen.
Une enquête est ouverte après l'agression au couteau de deux fillettes près de leur école dans la banlieue de Strasbourg. Hier, un homme de 30 ans, interné à plusieurs reprises en psychiatrie, a été interpellé. Une collégienne a fait un arrêt cardiaque pendant le confinement par sécurité de son établissement voisin. Cette affaire à Toulon, où un homme de 91 ans est mort le mois dernier pendant une opération place nette de la police. Alors les circonstances restent encore floues, mais la fille de ce nonagénaire explique que la police venait en fait interpeller le petit-fils du vieux monsieur et que durant l'intervention, la porte blindée l'a heurté en tombant, Cassandre Bron.
C'est une voisine qui a raconté à Salia comment les policiers se seraient introduits dans le domicile de son père.
Ils sont arrivés à 6h, ils ont dû frapper. Mon père n'entend strictement rien. Quand la porte a voulu tomber, la porte s'est effondrée sur mon père. 91 ans, qui l'a mis au sol.
Le temps de se rendre à l'hôpital, il est déjà trop tard. Salia n'a pas eu le temps de dire au revoir à son père.
C'est une horreur. Et voir mon père mourir comme ça, j'ai envie d'hurler à la mort. L'injustice.
Et ce qui met cette mère de famille encore plus en colère, c'est de rappeler l'engagement de son père pour la France.
Il était fier de ce qu'il représentait. Il a fait la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine. Mon père s'est battu pour la France. Il a construit pour la France, mais la France l'a tué. Voilà le remerciement.
Le jour du drame, Saléa raconte que le procureur de Toulon est venu présenter ses excuses, mais elle a quand même déposé plainte hier pour homicide involontaire. Et son avocate, Maître Lola Dubois, ne compte pas s'arrêter là.
On souhaite qu'il y ait une enquête qui soit diligentée. On souhaite que les services interpellateurs soient auditionnés. En réalité, on souhaite chercher les responsabilités, si responsabilité doit être recherchée de la police.
Le père de Saléa été rapatrié en Algérie où il a été enterré auprès de sa femme.
La relocalisation de l'industrie de la santé voulue par le gouvernement, elle est mise à mal ce matin. Pourquoi ? Parce que la marque de médicaments génériques Biogarant, que tout le monde connaît, est en vente, selon le journal Les Échos. 4 candidats pour la reprise, 2 sont indiens. Le gouvernement dit surveiller la situation de près. Pierre Borges pour RMC, pourquoi les laboratoires Servier veulent se séparer de Biogarant ?
Eh bien parce que produire des médicaments génériques en France, ce n'est plus rentable. Hein. La faute à des taxes de plus en plus lourdes et des tarifs fixés par les autorités sanitaires trop faibles d'après un économiste de la santé. Résultat, chez Biogarant, plus de 10% des médicaments produits étaient vendus à perte. Autre argument, produire en France n'est plus aussi compétitif qu'avant. Prenons l'exemple de l'Inde. Le pays produit des médicaments de même qualité qu'en France pour 4 fois moins cher. C'est d'ailleurs la crainte des syndicats. Avec un rachat, la production de médicaments pourrait être délocalisé, entraînant des suppressions de postes, mais aussi des risques de pénurie encore plus importants. Le gouvernement se dit être très vigilant et se réserve le droit d'activer une procédure permettant de contrôler les investissements étrangers dans l'entreprise.
Et du monde, je vous le signale, du monde sur la route avec le début des vacances. Ce vendredi, dans la zone B, celle de Marseille, Nice, Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg. C'est un vendredi qui est classé orange près de la Méditerranée.
C'était le journal de Quentin Vinet sur RMC. Il est 5h08 et vous êtes avec nous au 32-16 et sur l'appli RMC, les leftos, mais aussi les couches tard comme Christelle ce matin. Bonjour Christelle.
Bonjour à vous, ça va?
Oh, en pleine forme Christelle.
Ça fait plaisir.
Ouais, je suis éclatée, mais c'est de la bonne fatigue. On rentre du stade, là, c'était une soirée de malade.
Alors quand vous dites on rentre du stade, vous étiez au Vélodrome.
C'est ça, tout à fait, oui, oui.
Et là, vous êtes sur la route du retour, mais vous habitez où?
Alors, on habite Grenoble.
Ah oui.
Donc là, on est à une cinquantaine de kilomètres de Grenoble, ouais.
Ça y est.
Ça a été un match de fou furieux. Maria, il a implosé tellement qu'il s'est fait siffler que, enfin voilà, c'était hué, c'était. Ça m'a fait de la peine quand même pour lui, mais bon, enfin d'un autre côté, allez l'OM hein, quand même. Hein. On est bon, hein, on est bon. Hein.
Eh oui, au bout du suspense, en plus les tirs
au but. Et puis alors, Paolo Lopez, il nous a fait un match de ouf. Lui qui est pas bon en temps normal, on sait sur les coups de pied arrêtés ou sur les pénaltys là, il a sorti le match de l'année.
Et comment vous avez vécu ça là? C'était en apnée la fin du match?
Ouais, c'était un truc de fou. Enfin, l'ambiance, tout. Enfin, même si vous connaissez pas les gens, vous avez l'impression que c'est la famille, tout le monde tient la main et quand ils nous arrêtent là, quand ils nous arrêtent ça, enfin c'est un truc de ouf. Enfin, tout le monde crie, tout le monde hurle, ça pleure, ça se prend dans les bras. Il y a de la bière, de l'eau qui vole de partout tellement que tout est foutu en l'air. Enfin voilà, c'est.
C'était comment les rues de Marseille après le match?
Ah ben non, on est parti. Enfin, ça a été compliqué parce qu'on est sorti déjà du stade à minuit. Mais nous, on était sur le vieux port. Ça a commencé déjà à avoir de l'animation, du monde. C'était déjà franchement ouais sympa. T'sais. Mais après, nous, on est parti parce que on a 4 heures de route à faire. Voilà. Ouais. Et puis moi, mon mari me pose à la maison. Là, il repart dans son camion parce qu'il est transporteur. Donc
ah oui.
Le métro, un truc de ouf. Enfin voilà, c'est vraiment.
Et derrière, vous allez bosser là.
Ouais, on va bosser. Ouais.
Ah oui, vous êtes en forme, hein?
Bah, il faut, hein.
Et vous faites ça souvent, les allers-retours pour le Vélodrome?
Ouais, on essaye d'assez souvent, on y va au moins 2 fois par mois.
D'accord. Ah oui. Bon, et donc maintenant, il va falloir trouver les tickets pour la demi-finale.
Eh ben, j'ai déjà mis les alertes sur le téléphone pour dès que ça arrive, comme j'avais fait là, hein. En même temps, on est obligé. Enfin, ça arrive au moins une fois dans sa vie. C'est une ambiance, c'est vraiment, surtout après le début de saison qu'ils nous ont fait, enfin, on pouvait pas rêver mieux, là.
Ouais, ça sauve quand même la saison, cette demi-finale contre l'Atalanta Bergame, les 2 et 9 mai. On suivra ça évidemment sur RMC. Merci pour votre appel. Vous êtes prudent sur la route quand même.
Oui, toujours.
Faites attention à vous. Christelle qui rentre à Grenoble après une soirée de fou au Vélodrome à Marseille. Merci pour votre appel. Il est 5h11. Allez, on va jouer ensemble.
RMC, Charles Matin, Êtes-vous bien réveillé ?
Bon, vous connaissez le principe, on vous fait gagner des cadeaux tous les matins sur RMC avec une question d'actualité. Vous avez bien écouté le journal, bah, vous allez forcément avoir la réponse à cette question. En plus, on vient d'en parler.
Contre quelle équipe l'OM s'est qualifié hier soir pour la demi-finale de Ligue Europa ?
Voilà, vous avez la réponse. Il suffit d'envoyer Actu par SMS au 732-16, le mot Actu au 732-16 avec un cadeau.
Et oui, vous gagnerez un radio réveil dernier cri de la marque Muse. Si vous êtes tiré au sort, vous serez avec nous à 6h20.
Allez, Actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillés sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC Police Justice.
À 5h12, votre rendez-vous RMC-PJ, une histoire repérée par le service police-justice d'RMC. Ce matin avec le chef du service, Guillaume Biet. Bonjour Guillaume.
Bonjour Sébastien, bonjour Estelle,
bonjour
à tous.
Ce matin, vous nous parlez de cet incroyable vol d'or au Canada pour lequel 6 suspects viennent d'être arrêtés.
Oui, de l'aveu même du chef de la police régionale, cette affaire pourrait à elle seule être une série Netflix. Il y a pile un an, 17 avril 2023, sur l'aéroport de Toronto, des malfaiteurs réussissent un vol phénoménal. 400 kilos d'or pur et 1 700 000 euros en cash. Tout ça en quelques minutes, sans armes ni violence. Ce jour-là, c'est une cargaison de 6600 lingots d'or et de billets de banque qui arrive en provenance de Zurich et qui est stockée dans un entrepôt d'Air Canada. 42 minutes plus tard, le chauffeur d'un camion se présente à la zone de fret avec un faux bordereau, la copie falsifiée d'un document qui avait été utilisé la veille à l'époque pour récupérer des fruits de mer. Bref, ça a suffi pour que l'or et l'argent soient tout simplement chargés dans son poids lourd. Alors pour réussir un tel coup, il a évidemment fallu des complicités internes. Deux employés d'Air Canada viennent d'être arrêtés. Le chauffeur du camion lui aussi a été interpellé. Un bijoutier également. 6 suspects au total. 3 autres sont toujours recherchés, tout comme le butin qui n'a pas été retrouvé. Les enquêteurs pensent que les lingots d'or ont été fondus et écoulé notamment sous forme de bracelet, d'où les soupçons sur le bijoutier. La revente de cet or et l'argent en espèces aurait servi à rembourser d'énormes dettes liées au trafic de drogue ou encore à acheter des armes. Le chauffeur du poids lourd transportait 65 pistolets automatiques quand il a été arrêté.
Guillaume Biet, le chef du service police-justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
À suivre, eh bien c'est vous qui avez la parole. À vous de nous dire que pensez-vous des pistes de mesures évoquées hier par Gabriel Attal pour serrer la vis à l'école. Gabriel Attal qui veut un sursaut d'autorité dans les classes avec l'idée, eh bien, par exemple au collège, de sanctionner les élèves perturbateurs sur leur diplôme, leur enlever des points au bac ou au brevet ou pour leur CAP et même apposer une mention dans leur dossier scolaire pour que ça se voit, pour que leur mauvais comportement soit visible dans leur dossier Parcoursup qui est consulté et qui joue pour l'orientation après le bac, avec une manière de s'en débarrasser, faire des travaux d'intérêt général. Est-ce que ces mesures vous paraissent adaptées, justifiées, à la hauteur? Certains estiment que c'est un petit peu disproportionné, que c'est une manière d'étiqueter un petit peu trop les élèves, d'autres que qu'il est nécessaire à un moment de serrer la vis. Vous êtes parents, vous êtes enseignant, vous êtes éducateur au contact des jeunes, on vous attend au 32-16 et on lit tous vos messages sur l'application RMC. Vous avez la parole dans un instant. Avant cela, ce sera RMC qui s'engage avec vous, avec Guillemette Franquet, qui nous reparle ce matin des vitraux du prêtre pédocriminel Louis Ribes. A tout de suite.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 5h17. Vous êtes bien sur RMC.
Vous avez un problème ? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Avec Guillemette Franquet ce matin. Bonjour Guillemette.
Bonjour Sébastien, bonjour Estelle.
Bonjour.
Guillemette, vous nous reparlez ce matin des fameux vitraux très polémiques parce que c'était les vitraux du prêtre pédocriminel Louis Ribes.
Oui, un abbé décédé il y a 30 ans. Entre les années 50 et 90, Louis Ribes faisait poser des enfants dans son atelier dans le Rhône. Après sa mort, des centaines d'entre eux l'ont accusé d'agressions sexuelles et de viols. Des faits que la justice n'a jamais pu juger, mais que l'Église a reconnu. Certains de ces vitraux, inspirés de ces scènes d'horreur, décoraient des églises près de Lyon, 6 au total. 3 mairies les en ont fait retirer, dont la dernière en date, il y a 3 jours, à Charly. Des victimes du prêtre Louis Ribes sont venues assister à la dépose. Parmi elles, Annick.
Ça nous permet à tous, finalement, de retrouver un semblant de sérénité, parce qu'on a été entendus. C'est quand même énorme. Oui, enfin.
À ce jour, 50 victimes comme elle ont porté plainte.
Guillemette, il reste pourtant trois églises ornées de vitraux de ce prêtre.
Oui, Loire-sur-Rhône qui s'est engagé à les retirer d'ici fin juin, Caluire qui le fera fin août, début septembre, et Givors. Givors qui refuse catégoriquement de les retirer. Pour les victimes comme Annick, c'est intolérable.
Qu'est-ce qui l'empêche de faire cette dépose parce qu'on lui demande finalement pour avoir un semblant de réparation, de justice qu'on n'aura jamais.
Ça fait un an qu'au sein de notre cellule RMC s'engage avec vous. Nous échangeons avec le maire de Givors, Mohamed Boudjelaba. Il n'a pas répondu à nos dernières sollicitations. Il refuse désormais de parler au diocèse de Lyon, qui soutient pourtant le retrait des vitraux.
Bon, et comme d'habitude, avec l'équipe d'RMC s'engage avec vous, vous ne lâchez rien.
Oui, avec Solène Leroux, nous avons interpellé tous les élus du coin, le Grand Lyon, les sénateurs, le député, jusqu'à Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. Le parti a en effet soutenu le maire de Givors au municipal de 2020 et il pourrait prendre une décision radicale. C'est une info RMC. Si Mohamed Boudjelaba ne plie pas, les écologistes envisagent de lui retirer leur soutien pour les prochaines municipales dans 2 ans. Nous, on continue évidemment à suivre ce dossier de très près et surtout, on espère que le maire de Givors finira par accéder à la demande des victimes.
Merci Guillemette Franquet avec toute l'équipe d'RMC s'engage avec vous. Et si vous aussi vous avez besoin d'aide, que vous voulez alerter l'équipe sur une difficulté, RMC avec vous @rmc.fr, c'est l'adresse mail pour contacter toute l'équipe. 5h19.
RMC, à vous de nous dire.
À vous de nous dire, vous avez la parole. Tous les matins sur RMC, on vous attend au 32-16. À vous de nous dire ce que vous pensez de ce que propose le Premier ministre Gabriel Attal pour être plus sévère avec les élèves perturbateurs à l'école. On parle de leur enlever des points sur leur diplôme et d'inscrire une mention dans leur dossier scolaire.
Gabriel Attal était sur BFM TV hier soir. Il veut un sursaut d'autorité, notamment à l'école, avec donc l'idée de pénaliser les élèves auteurs qui perturbent donc les cours, commettre des dégradations ou pire, des violences.
Et c'est Pierre qui est avec nous au 32-16. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bonjour toute l'équipe.
Pierre, notre poissonnier à la Garenne-Colombes.
Oui, Malakoff.
À Malakoff. Le marché du vendredi, ça se prépare ?
Ça y est, c'est prêt. Ça y est.
Ça y est, vous êtes installé. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures, donc des points en moins, une mention dans leur dossier Parcoursup pour pénaliser les fauteurs de troubles dans les classes, hein, ça veut dire les pénaliser aussi sur leur orientation post-bac. Il faut aller jusque-là ?
Non, moi je pense pas. Là, pour moi, c'est des petites mesurettes. Parce que je vais vous expliquer. Alors, un enfant qui va être pénalisé sur les points des diplômes. Si un enfant, admettons, 4e, 5e, il lui arrive quelque chose dans sa vie, son père, sa mère meurt, et il est perturbé et il risque de faire des conneries. On va le pénaliser par rapport à ça déjà. Je trouve que c'est un peu bête. Et puis déjà, quand Monsieur Attal, quand il a dit que pour les ceux qui harcelaient les enfants, qu'il ait changé d'école, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas fait. Il y a rien qui se fait. Et pourquoi on referait pas comme on faisait avant? Avant, moi, j'étais à l'école, j'avais quand il y avait des enfants perturbateurs avec grosses difficultés, on les mettait dans une classe spéciale et on leur apprenait la discipline et tout. Et quand il y avait les profs qui rentraient ou que ça soit les directeurs, on se levait tous.
Alors ça, pour le coup, il en a parlé, Gabriel Attal, hier, dans son discours, que chaque élève, qu'on revienne à ça, effectivement, qui n'existe plus dans tous les établissements, le réflexe de demander aux enfants de se lever quand un adulte rentre dans la classe.
Et ça, c'est moi qui l'ai appelé hier.
C'est ça, vous voyez, il a lu votre texto.
Voilà, exact.
Et puis, il y a l'idée aussi des travaux d'intérêt général, c'est-à-dire le fameux « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies » que Gabriel Attal répond et qui serait sous forme finalement de travaux d'intérêt général, avec l'idée que ces points qui seraient retirés des examens et cette mention, on peut revenir en arrière si on se comporte bien et si on va faire des travaux d'intérêt général.
Ouais, là, par contre, c'est pas mal. Mais je n'ai pas écouté hier, parce que je n'ai pas entendu. Donc, je ne les écoute plus, moi.
Vous ne les écoutez plus. En tout cas, vous dites pourquoi pas cette espèce de sanction, mais réparation, quoi. Si, possibilité de réparer, quoi.
Là, oui, d'accord, oui. Ouais, ce n'est pas une mauvaise idée, hein, parce qu'il faut quand même faut des sanctions. Je crois que les enfants qui, comme là, qui ont tué, le monde de Viry Châtillon. Là, par contre, il faut que ça soit la justice.
Là, on est sur autre chose. Hein, évidemment, là, on ne parle pas de ce type de violence. On parle plus des incivilités, des dégradations, des mauvais comportements en classe, là, en l'occurrence. Merci, Pierre, pour votre témoignage. Il y avait cette même crainte aussi chez les syndicats de voir les élèves étiquetés à vie, entre guillemets, si on leur enlève des points ou si on appose une mention sur leur diplôme. Ça vous fait réagir. 32-16, l'application RMC. On continue d'en débattre tous ensemble sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Il est 5h23, à suivre le journal de 5h30 avec notamment des réactions d'adolescents et de parents d'élèves sur le sujet qu'on vient d'évoquer. Et puis à 5h40, toute la bande de Charles Matin va nous rejoindre avec Jordan Olivier pour la Story Sport. On va parler de Joel Embiid, la star de la NBA qui fait faux bond à l'équipe de France de basket pour les JO. Et il a choisi le maillot américain. On va vous raconter ça. Anthony Morel, c'est déjà demain, qui nous fera passer plus vite les contrôles à l'aéroport. Ça peut être pratique. Et puis Estelle, ta solution conso dans un instant.
Et oui, je vous emmène trouver votre voiture d'occasion dans une vente aux enchères.
À tout de suite sur RMC.
RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Sébastien Krebs.
Très bon réveil, c'est vendredi. Merci d'avoir choisi RMC et d'être encore avec nous. Tiens, on s'occupe de votre pouvoir d'achat.
RMC.
La solution conso.
La solution conso d'Estelle Gass. Estelle, tu nous conseilles ce matin la vente aux enchères pour acheter une voiture d'occasion.
Et oui, hein, idéal pour les acheteurs pressés dotés d'un petit budget, surtout quand on sait que le marché de l'occasion est en plein boom. Eh bien, les enchères automobiles également. Près de 25% d'augmentation en un an. Concrètement, il s'agit de lots qui proviennent généralement de vendeurs qui veulent écouler rapidement leur patrimoine, c'est-à-dire des héritiers par exemple, mais également l'État et les collectivités locales qui ont récupéré des biens après des liquidations et saisies judiciaires.
Après la vente aux enchères, comment on se prépare à ça? C'est pas évident.
Effectivement, Sébastien, le premier conseil, c'est que vous devez être sûr de vous. Et pour ça, il faut anticiper son achat. Toutes les ventes sont précédées d'une exposition publique, physique ou virtuelle via des sites spécialisés. Pratique donc pour estimer l'état des voitures vendues. Informez-vous sur une éventuelle estimation de la valeur de la voiture, de sa date de première mise en circulation, de son kilométrage, de son carnet d'entretien et de son contrôle technique. Le mieux, finalement, c'est de déterminer un budget maximum en amont dans votre tête. Et prévoyez des frais par contre supplémentaires à l'estimation de départ fixée par le commissaire priseur. C'est le pourcentage finalement calculé sur le montant fait aux enchères qui est à régler par l'acheteur lors du paiement de son lot. Il varie environ entre 15 et 30% du prix de l'achat. Également, si vous souhaitez être livré, ce service est le plus souvent payant. La voiture est, elle, vendue sans garantie. Et attention, pas de délai de réflexion ou de rétractation dès que le commissaire priseur a jugé vendu. Vous l'avez et vous ne pouvez plus revenir en arrière.
Ah oui.
La vente est donc définitive au dernier coup de marteau. Dernier conseil, assurez-vous d'avoir bien l'argent sur votre compte. Le paiement s'effectue au comptant le jour même ou sous 48 heures.
Ah oui, il n'y a pas de délai. On paye tout de suite.
Il faut être sûr de soi.
Il faut vraiment effectivement être sûr de son coût. La vente aux enchères pour acheter une voiture, la solution conso du jour. Et vous retrouvez toutes les solutions conso sur rmc.fr en podcast.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Le journal de 5h30, la météo dans un instant. D'abord, allez, on va se faire un peu plaisir en ce vendredi matin avec le meilleur d'Arnaud Demanche.
Gabriel Attal est à Matignon depuis 100 jours. Déjà, le temps passe tellement vite quand on passe des bons moments. Et il a déjà des cheveux blancs, hein. Il commence son Édouard Philippisation, qui lui aussi avait commencé à se décolorer à Matignon. Vous vous souvenez? Il y a 100 jours, avec Attal, on avait l'impression de voir un post-ado arriver à Matignon. Après 100 jours, on dirait un vieil ado, genre Laurent Romeshko, vous savez, le présentateur des chiffres et des lettres, l'homme qui ne vieillit jamais. Dans 100 jours, c'est le sosie de Jack Lang, Attal. Matignon, c'est l'inverse d'un chirurgien esthétique, c'est un accélérateur du vieillissement.
Arnaud Demanche qui sera avec nous en studio en direct tout à l'heure. Vous connaissez les rendez-vous, 7h20 et 8h20 dans Apolline Matin. Ce sera avec Charles Magnin qui nous rejoint tout à l'heure et avec toute l'équipe.
RMC, Charles Matin.
Un nouveau journal en direct avec Solène Leroux. Bonjour Solène.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Israël riposte et attaque l'Iran. Trois explosions rapportées tôt ce matin près d'une base aérienne iranienne. Gabriel Attal donne le ton et s'attaque à la violence entre les jeunes. Le Premier ministre veut que les élèves les plus contestataires soient pénalisés. Marseille jubile et Lille pleure. L'OM s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa hier soir. Le LOSC s'arrête aux portes du dernier carré de la C4.
Ces dernières heures, Israël a donc entamé sa riposte contre l'Iran.
C'est l'information de la nuit. Trois explosions ont été rapportées près d'une base militaire iranienne. Réplique directe après les attaques sans précédent du week-end dernier. On y revient plus en longueur dans le journal de 6h. Et Gabriel Attal était l'invité de BFM Télé hier soir, 100 jours après son arrivée à Matignon. Il est largement revenu sur ses annonces du matin depuis Viry-Châtillon, ville marquée par la mort de Chemseddine, battu à mort près de son collège il y a 2 ans. Gabriel Attal se dit favorable à sanctionner les élèves perturbateurs sur leur brevet, leur CAP ou leur bac. Mesure choc qui fait réagir. Estelle Henry, correspondante de RMC dans le Sud-Est, vous avez rencontré des élèves et leurs parents.
C'est lors de la pause pour Louane, élève en première, plutôt favorable à la sanction des élèves perturbateurs.
Je pense que pour certaines personnes, ouais, ce serait efficace. Peut-être qu'ils auront plus peur des conséquences et que ça leur ferait plus réfléchir sur leur comportement.
D'autres, comme Louise, sont beaucoup plus mitigées. Pour elles, pénaliser des élèves sur leur diplôme n'est pas la solution.
Peut-être mettre en place des mesures, des suivis psychologiques à l'école notamment, faire peut-être intervenir la justice dans certains cas. Ça serait beaucoup plus intéressant.
Une mention pourrait aussi figurer dans le dossier Parcoursup des élèves qui perturbent le plus gravement les cours. Ses contours restent à définir, mais pour François, parent d'élève, cela pourrait pénaliser de bons élèves un peu trop turbulents.
La personne peut avoir des bonnes notes avec ces mentions-là, perturbateurs ou bagarreurs. Ça peut faire réfléchir les universités pour le prendre. C'est un casier judiciaire déguisé.
De lourdes conséquences pour l'avenir des élèves, c'est aussi ce que regrette Magali, professeure d'histoire géo au lycée.
Pénaliser leur avenir sur des années de cette manière-là, moi ça me semble un petit peu régressif. C'est plus une question de revoir la manière dont on organise le travail scolaire et les moyens qu'on nous donne.
Condition pour ne pas être sanctionné ou pour effacer une mention négative, réaliser des activités d'intérêt général.
Et on vous attend au 32-16 pour réagir. Que pensez-vous de ces nouvelles pistes pour serrer la vis à l'école? 32-16 et vos messages, c'est sur l'application RMC. On en vient à cette enquête ouverte après l'agression au couteau de deux fillettes.
Ça s'est passé hier près de Strasbourg. Les victimes sont hors de danger. Un homme a été arrêté quelques minutes plus tard. Il est en garde à vue. Aucun lien avec une attaque terroriste. Guillaume Biet, chef du service police-justice à RMC, vous nous dites que le suspect serait plutôt un déséquilibré mental.
Oui, c'est un homme d'à peine 30 ans qui s'en est pris hier après-midi à deux fillettes à l'extérieur de l'école. La première, âgée de 11 ans, a été agressée au couteau devant le groupe scolaire. La seconde, 7 ans, touchée alors qu'elle sortait du square avec sa mère juste à côté. Des blessures superficielles pour les deux fillettes. L'auteur a été interpellé sur place par les gendarmes qui sont intervenus en quelques minutes. On sait de cet homme qu'il est français, inconnu des services de police, mais qu'il a un passé psychiatrique et a déjà été interné plusieurs fois. Aucun élément terroriste n'apparaît à ce stade, souligne la procureure, qui ajoute que, suite à l'attaque, le collège voisin a été confiné par sécurité. C'est à ce moment-là qu'une élève de 4e a été victime d'un arrêt cardiaque. La collégienne de 14 ans a été hospitalisée dans un état grave. Une enquête est en cours pour établir les circonstances de son malaise.
5h33 sur RMC. Biogarant pourrait passer sous pavillon étranger. Le géant français du médicament est en vente. Il produit 50% de sa production en France et emploie 8 600 personnes. Et parmi les candidats au rachat, 2 entreprises indiennes. Un coup dur pour l'État qui souhaite relocaliser son industrie de la santé. Cette possible acquisition inquiète dans le secteur, Pierre Bourgès.
Évidemment, cette éventuelle cession interroge Jean-Louis Perrin, coordinateur de la branche industrie pharmaceutique de la CGT.
Ça fait poser la question de la souveraineté. On peut bien imaginer que les productions risquent fortement de partir à l'étranger, notamment certainement en Inde. Derrière, on sait très bien qu'on rencontre des pénuries d'approvisionnement des pharmacies par manque de production de principes actifs.
Ce sont aussi des milliers d'emplois qui pourraient être menacés par des délocalisations, mais selon Frédéric Bizard, économiste de la santé, avec la lourdeur des taxes et le manque de compétitivité, les industriels pharmaceutiques ne peuvent que réduire leurs investissements en France depuis une dizaine d'années.
Il est assez normal que nous soyons balayés. Les Indiens comptent aussi bien que nous en matière de chimie fine. Ah, et ils font de façon 3-4 fois moins cher que nous. Si nous ne nous réveillons pas en prenant conscience des dysfonctionnements de notre système de santé, je ne vois pas comment est-ce que dans 10 ans, nous pourrions présenter quoi que ce soit en matière de développement et de production industrielle pharmaceutique.
Le ministre de l'Industrie a indiqué hier suivre de près le dossier et se réserve le droit d'activer une procédure permettant de contrôler les investissements étrangers dans l'entreprise.
Et justement, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, sera sur RMC ce matin. Il sera l'invité de Charles Magnin tout à l'heure à 7h40 en direct. Le foot à 5h35 sur RMC, cette semaine folle pour les clubs français en Coupe d'Europe.
Après le PSG, autour de l'OM, de briller. Marseille est en demi-finale de la Ligue Europa. Après avoir perdu le match aller 2-1, l'OM a renversé Benfica Lisbonne en quart de finale. Retour de la compétition pour s'offrir son billet. Dans le dernier carré, le capitaine Samuel Gigot, très fier de ses coéquipiers. Écoutez.
On ne peut pas rêver mieux. On est très très fiers, très heureux de cette qualification. C'était important pour nous, surtout au vu du match aller où je pense qu'on est resté un petit peu sur notre faim. On savait que ce but nous avait donné de l'espoir et c'était le mot d'ordre. C'est exceptionnel à titre personnel de vivre ce genre de moment, mais je suis vraiment fier pour le groupe surtout.
Et prochain rendez-vous pour l'OM, le 2 mai, ce sera contre l'Atalanta Bergame. Déception en revanche pour Lille qui se fait éliminer en quart de finale de la Ligue Europa Conférence, cette fois par Aston Villa, vainqueur au tir au but. Et le champion du monde argentin Emiliano Martinez, gardien d'Aston Villa, a encore fait un grand show, Jean Baumel.
Les 45 000 supporters lillois attendaient Emiliano Martinez de pied ferme. Impuissant sur les deux buts de Yaziche et André, le gardien argentin a en revanche fait le show pendant la séance de tir au but. Danse devant les tribunes, discussion avec les tireurs lillois, tenter de déstabiliser ses adversaires, une habitude pour le très chambreur gardien champion du monde, Jonathan David, attaquant du LOSC.
Il aime déconcentrer, comme on l'a vu sur le premier tir qui court pour aller chercher le ballon quand il doit juste aller dans son but. Pour lui, c'est un jeu tactique.
Olivier Létang, le président lillois, regrette l'attitude du gardien d'Aston Villa.
Parce qu'on passe du temps à parler de ce garçon qui a une attitude qui n'est pas celle d'un sportif de très très haut niveau, je trouve. Dans la défaite ou dans la victoire, il faut rester calme, élégant.
Sur les sifflets et les insultes qu'il a subies, Emiliano Martinez préfère relativiser.
À Arsenal, comme à Aston Villa, j'ai joué avec beaucoup de Français. Ce sont des personnes formidables, je les aime, mais évidemment, quand vous jouez contre eux, il n'y a plus d'amis. Je veux simplement être bon pour mon pays ou pour mon club.
Comme en finale de la Coupe du Monde, le gardien de l'Argentine a brisé le rêve de supporters français.
Et pour finir, une grosse frayeur avant-hier soir dans le Gard, après la disparition inquiétante d'un garçon de 6 ans. De gros moyens de recherche ont été déployés par les pompiers et gendarmes. Ils l'ont finalement retrouvé au bout d'une heure. Il était où à votre avis ?
Je sais pas, il était planqué au grenier.
Eh ben à peu près. En fait, il dormait tranquillement dans un carton dans la maison. C'est bon, dans un carton. Voilà. Alors on ne sait pas en revanche ce qu'il y faisait, mais en tout cas il y était. Il dormait bien, paisiblement.
On pense aux parents. Quelle angoisse. Quand même, effectivement.
Il va très bien.
Bon, tant mieux. Enfin, l'histoire qui se termine bien. Les courses aujourd'hui, c'est à l'hippodrome de Vincennes.
À suivre à 20h15 sur RMC Découverte. Le favori de la Dream Team RMC, c'est le 5. Isabella Ferme, le 12. Icône d'avenir et l'outsider, le 5 et le 12.
Solène Leroux pour le journal sur RMC. Il est 5h38 et vous êtes bien avec nous au 32-16. Vous êtes avec nous aussi sur l'application RMC. Pas mal de messages ce matin, Estelle.
Et oui, pour réagir notamment aux propos du Premier ministre Gabriel Attal hier soir sur BFM TV pour alourdir les sanctions contre les élèves qui pourraient être violent parfois. Eh bien, on a Christian qui nous dit évidemment qu'il faut poser des sanctions potentielles sur les examens. Quand on a des perturbateurs en cours, cela impacte l'ensemble des élèves et empêche donc la réussite des examens. Être ferme avec les jeunes, c'est donner un avenir plus serein. On a également Denis qui nous dit que l'élève doit être sanctionné durement et les professeurs protégés. Il faut également que les parents soient aussi responsables finalement des actes commis par leurs enfants. Et puis, on a Geoffrey et Stéphane qui nous disent que il trouve finalement que les mesures de Gabriel Attal sont encore un peu trop laxistes.
D'accord, avec ces mesures donc dont on parle, qui sont effectivement de retirer des points sur les examens au collège, sur le brevet, au lycée, sur le bac ou sur les CAP, retirer des points pour les élèves perturbateurs, pour les sanctionner, apposer une mention dans leur dossier scolaire pour qu'au moment de l'orientation, on sache que ce sont des élèves perturbateurs ou des fauteurs de troubles en classe, avec l'idée quand même de pouvoir se racheter avec des travaux d'intérêt général. On en débat ensemble, c'est notre débat du jour, on continue de vous donner la parole au 32-16 et sur l'application RMC. Mais d'abord, on joue ensemble.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Et on vous gâte tous les jours un cadeau à gagner dans Charles Matin avec une question d'actualité. Très facile ce matin, vous avez forcément la réponse.
Contre quelle équipe l'OM s'est qualifié hier soir pour la demi-finale de Ligue Europa ?
La réponse était partout dans nos journaux d'infos ce matin. Vous avez la réponse, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16, au 732-16, avec un cadeau à la clé.
Et oui, hein, si vous êtes tiré au sort, vous serez avec nous à l'antenne à 6h20 pour gagner un Radio Réveil dernier cri de la marque Muse.
Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillés sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
Les indiscrets RMC.
Allez, tout de suite plongé dans les coulisses de l'actualité ce matin avec Inès Zegloul. Bonjour Inès.
Bonjour Sébastien, bonjour Estelle.
Bonjour.
Depuis un an, la loi RIST plafonne la rémunération des médecins intérimaires. On sait que c'est un gros sujet. 1390 euros bruts au maximum les 24 heures de garde pour éviter que les prix flambent. Et depuis, eh bien, les mercenaires, comme ils sont surnommés, et c'est ce que vous nous dites ce matin, ces mercenaires ont l'air d'avoir disparu.
Effectivement, les gardes à 3000 euros les 24 heures semblent être révolues. C'était l'objectif du gouvernement et l'ancien ministre de la Santé, François Braun, qui était en poste au moment de la mise en place de ce plafonnement, s'en félicite. Alors, il y a eu quelques mois difficiles au début, reconnaît-il, notamment quand les médecins intérimaires ont fait grève pour protester contre la loi RIST. Des services sont même parfois restés fermés, mais depuis, la situation s'est améliorée, notamment grâce à la multiplication d'un contrat de remplacement, le contrat de type 2. C'est son nom. Il est prévu pour attirer des médecins sur des remplacements de longue durée, comme un congé maternité par exemple, et il prévoit des conditions de rémunération plus intéressantes en plafonnant notamment le salaire annuel à ce que gagne un praticien en fin de carrière, de quoi créer des tensions avec certains titulaires. Concrètement, pour une garde de 24 heures, une médecin urgentiste me dit toucher 1760 euros bruts avec ce contrat, et avant le plafonnement de la loi RIST, elle gagnait plus de 2000 euros en intérim. Impossible en revanche de savoir combien de contrats de ce type ont été signé en un an. Le ministère de la Santé reconnaît, je cite, une croissance notable qu'il convient de suivre avec vigilance, voire de juguler. Mais la chef d'un service d'urgence et le directeur d'une agence régionale de santé me confiaient y avoir recours que très rarement pour des durées de 24 heures ou 48 heures.
Les indiscrets de la rédaction d'RMC signés ce matin, Inès Zegloul.
RMC, Charles Matin.
Il est 5h42 et c'est l'heure d'accueillir toute la bande de Charles Matin avec ce matin Jordan Olivier. Salut Jordan, la Story Sport dans un instant.
Oui Sébastien, bonjour. On va parler de Joel Embiid, star du basket aux États-Unis. Peut-être que vous le connaissez ou pas d'ailleurs. Si c'est le cas, on vous le fera découvrir tout à l'heure. Il renonce à porter le maillot bleu aux Jeux Olympiques. Vous allez voir.
Moi, on n'est pas très content. Anthony Morel, c'est déjà demain. Salut Anthony.
Salut à tous. Je vais vous faire gagner beaucoup de temps si vous avez l'intention de voyager et de prendre l'avion. Arriver quelques minutes seulement avant son vol. Ce sera bientôt possible.
Pour éviter de devoir arriver 3 heures avant le vol. Bon, ça peut être intéressant pour les vacances. Et dans ton bonus, Estelle ?
Eh bien, dans à peine quelques minutes, Taylor Swift sort son nouvel album.
Ah, c'est le compte à rebours est lancé. Et puis, vous êtes avec nous, vous le savez, au 32-16. Vous vous installez avec un café autour de la table. Il y a Christophe qui est déjà connecté. Tiens, je vois, il va être avec nous dans un instant. À tout de suite.
RMC, Charles Matin.
Il est 6h moins le quart, bon réveil, merci d'avoir choisi RMC. Charles Matin continue avec toute l'équipe autour de la table, avec Jordan Olivier pour la Story Sport. On va parler basket dans un instant avec Anthony Morel qui nous promet d'arriver au tout dernier moment avant de prendre son avion à l'aéroport. Et puis Taylor Swift qui va encore faire péter les compteurs avec un nouvel album qui est publié dans un quart d'heure. Hein. On est vraiment dans le compte à rebours. Et on est à Marseille avec Christophe au 32-16. Bonjour Christophe.
Et bonjour la Dream.
Avec l'accent. Hein. Comment ça va Christophe? Encore toujours
rêvé. Je suis pas du Nord. Hein.
Non. Toujours pas couché après la fiesta marseillaise, là?
Écoute, je suis allé au stade, à 5 heures, et comme le match il a fini, je devais aller bosser à minuit, bon, je suis arrivé à 1h du matin, ça me fout.
Tranquille. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christophe?
Eh ben, je suis dans le transport.
Vous êtes dans les transports?
Il y a une dérogation spéciale à Marseille.
Bah, hein. Quand il y a un match, il y a le droit d'arriver en retard à Marseille.
C'est presque un jour férié.
C'était comment le Vélodrome hier soir?
Comme d'habitude. Le feu. J'avais l'impression d'avoir 15 ans. Et comme si c'était un petit retour vers le futur, quoi, tu vois. J'ai un bond en arrière plutôt. Et j'avais 15 ans et voilà, le minot.
c'est vrai que, et là en plus, ça arrive quand même après une saison un peu compliquée, quoi.
Ah, c'est un peu compliqué, ouais. Pas de préparation physique, trois entraîneurs. Ouais. Et t'as fait rentrer deux jeunes, il a 17 ans, l'autre avait 18 ou 19 ans. C'est compliqué.
Et puis au bout, il y a quand même une demi-finale de Coupe, de coupe d'Europe, c'est là. Pas mal.
On est là.
Et voilà. Comment c'était à la sortie, là, le Vieux-Port, les rues de Marseille, ça a été la fiesta toute la nuit?
Ah ouais, ça a été comme d'habitude. Hein, déjà sur le Prado, à côté du stade, même pas ça me parle. déjà avant le match, c'était le feu à ses cœurs. Ça a commencé à chanter, bon, boire un peu, évidemment, ça, c'est avec modération, mais bon, c'est bien. Et voilà.
Grosse ambiance.
Ouais. C'est bon.
Hein. Et vous avez poussé l'équipe jusqu'au bout, jusqu'à la séance de tir au but, et jusqu'à cette victoire. Ce sera le 2 et le 9 mai, la demi.
Ça va pas être pareil. Alors.
Et ça va peut-être être une autre histoire contre l'Atalanta Bergame. Christophe, je voudrais vous entendre.
Liverpool à 3-0. Ouais. Hein.
Oui, c'est ça. Christophe, je vais vous entendre d'un mot quand même sur notre débat du jour. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Qu'est-ce que vous pensez des idées évoquées par Gabriel Attal pour serrer la vis à l'école, retirer des points sur les diplômes?
Enfin, quelqu'un qui met un petit peu le coup de pied dans la fourmilière. Il y a trop de laisser-aller avec ces jeunes. Ils sont un peu à l'abandon, les réseaux sociaux, les machins, la délinquance. Ils portent tous ces limites à 14 ans et couteau. Moi, j'ai des enfants, j'ai divorcé, mais c'est ironique, hein, mais ils sont partis à Paris, mais à côté, hein, dans Seine-et-Marne. Mais honnêtement, je suis content qu'ils ne soient pas sur Marseille, parce que c'est le bordel, c'est le bordel, ces jeunes, maintenant.
Ils ont quel âge, vos enfants?
Ils sont un peu grands, moi, les miens, ils ont 26, 24 et 18.
Ah, donc ils sont plus à l'école, enfin, sauf peut-être le dernier qui...
Oui, ma fille, elle a 18 ans, elle va faire une machine de lettres, là.
Ouais. Mais à l'école, à Marseille, vous auriez pas aimé qu'il soit dans les écoles marseillaises, quoi.
Non. Honnêtement, en plus, il habite dans les quartiers nord.
Ouais.
C'est bon. C'est... Tout le monde, il voit Marseille un peu en carte postale, mais tu as les dessous comme de partout, ouais. C'est compliqué, franchement c'est compliqué.
Christophe, vous restez bien avec nous. On va parler basket. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité de la NBA.
Déjà je suis OM.
Voilà, déjà c'est le foot à Marseille. On ne parle pas beaucoup de basket, mais ça va quand même vous intéresser. La story sport, Jordan Olivier et cet imbroglio aujourd'hui autour d'une star de la NBA, Joel Embiid, qui a la possibilité finalement de jouer pour trois sélections nationales différentes pour les JO.
Oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas Joel Embiid, bon, il a 30 ans, c'est l'une des stars effectivement de la Ligue de basket nord-américaine. Il est natif de Yaoundé au Cameroun, mais dispose également d'un passeport français obtenu le 4 juillet 2022. Pas beaucoup de liens entre Embiid et la France pourtant, à part un peu de famille en région parisienne, chez qui plus jeune il passait ses vacances d'été. Peu importe pour la Fédération française de basket qui se frotte les mains, les Bleus vont pouvoir disposer d'un pivot de classe mondial pour les Jeux Olympiques de Paris et disputer les JO avec une sélection compétitive, et bien c'est aussi ce que souhaite le joueur de Philadelphie. Mais finalement, rien ne va se passer comme prévu.
Eh ben oui, parce que Embiid a été sélectionné mardi pour disputer les Jeux avec la Dream Team américaine, avec les États-Unis.
Exactement, car en parallèle de sa demande de naturalisation en France, il entreprend également des démarches pour devenir citoyen des États-Unis, pays dans lequel il réside depuis près de 15 ans. Et figurez-vous qu'il obtient donc la nationalité américaine 2 mois seulement après le coup de tampon favorable sur son dossier en France. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf qu'hier, RMC Sport révèle le contenu d'une lettre écrite par Joël Embiid, adressée directement à Emmanuel Macron, datée du 28 octobre 2021. Dans cette missive, il sollicite l'intervention du président de la République afin d'accélérer le processus. Voici les mots inscrits dans ce document. « Je souhaite engager les démarches pour obtenir une naturalisation française et pouvoir ainsi être sélectionnable avec les Bleus. Je ne souhaite en conséquence jouer pour aucune autre équipe nationale. » Cette phrase, elle est très importante.
Wow.
Embiid va finalement jouer pour Team USA, un volte-face qui fait beaucoup parler, notamment sur RMC évidemment. Stephen Brun hier, dans le Super Moscato Show.
Choisir Team USA à la place de la France, sportivement, moi, j'ai aucun problème avec ça. T'as beaucoup plus de chances d'être champion olympique avec les Américains qu'avec la France. Mais maintenant, ça veut dire qu'il faut falloir assumer, parce qu'il n'y a pas eu de, il y a pas eu de lettre d'excuse de Joël Embiid, parce que t'as quand même menti à un pays et à un président. Il s'est jamais douté à un seul instant que la lettre Absolument. Officielle allait sortir. Donc,
Ah oui, cette lettre, elle est bel et bien sortie. Embiid sera bel et bien à Paris pour les Jeux Olympiques, mais avec le maillot américain.
Mais on s'est fait damer le pion, ils ont été plus rapides, les Américains, c'est tout. On a raconté l'histoire hier de ce nageur qui vit en France, qui a passé toute sa jeunesse en France, qui pourrait être un potentiel médaillé qu'on ne naturalise pas et qui attend depuis des années. Et puis, aux États-Unis, bah, eux, ils sont rapides.
Ils ont pris la balle au rebond.
Ils ont pris, exactement. Joli. Allez, on va à l'aéroport avec Anthony Morel. L'aéroport du futur, Soma. Vous nous promettez, Anthony, qu'on va perdre beaucoup moins de temps, notamment pour les contrôles de sécurité. On va pouvoir arriver quelques minutes avant le décollage.
Ouais, c'est ça. Ça reste l'un des gros points faibles, hein, évidemment, du transport aérien pour le moindre vol. Alors, surtout pour l'international, il faut arriver une, deux, trois heures à l'avance pour les contrôles d'identité, de sécurité, tout ça. C'est tout à fait normal, tout à fait légitime, mais la technologie pourrait nous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps pour les contrôles de sécurité. Bientôt, ben, il n'y aura plus besoin, par exemple, d'ouvrir chaque valise, chaque sac, de sortir son ordinateur portable, les appareils électroniques, les flacons, etc. Tout ça, ce sera terminé. Technologie en phase de test à Orly et à Roissy qui va se généraliser. 8 scanners 3D de nouvelle génération qui permettent de détecter la présence d'explosifs sans avoir besoin d'ouvrir quoi que ce soit. Des appareils qui utilisent la tomodensitométrie, qui est utilisée aussi en imagerie médicale, c'est pour voir à l'intérieur du corps en gros. Et donc la valise passe dans une machine à rayon X et à partir de centaines d'images, on va reproduire une image 3D haute résolution de tout ce qui se trouve à l'intérieur de vos bagages et on va voir très clairement bah, votre ordinateur portable, détecter les explosifs liquides aussi. Donc on a plus besoin de sortir ni les appareils électroniques, ni les flacons de liquide. On n'aurait plus non plus la limite de 100 millilitres par contenant comme aujourd'hui. Donc c'est quand même un gain énorme. Pour les passagers, c'est un gain de temps estimé de 30% sur les contrôles et pour les aéroports, c'est plus de fluidité. C'est une technologie dont le déploiement se poursuit et qui est censé notamment faciliter la circulation pendant les JO.
Et donc, on pourrait comme ça gagner du temps, également grâce à une caméra qui vous déshabille.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a toujours quand même les portiques, vous savez, où il faut passer ensuite pour contrôler voilà, le métal, etc. Bah, oui, ça, voilà. Ça pourrait être remplacé par une caméra spéciale. Alors, comment la décrire ? Ça ressemble à une grosse poubelle, en gros. Et tu n'as plus besoin de passer sous un portique, tu passes à côté. Et cette caméra, elle va analyser tout ce qui se trouve sur toi. Elle va te déshabiller, j'allais dire virtuellement, évidemment, elle ne va pas te voir tout nu, mais elle va voir tout ce que tu portes sur toi, tout ce qui se trouve de dangereux dans un rayon de 10 mètres. On va utiliser pour ça, on va détecter ce qu'on appelle les hyperfréquences, et les ondes qui sont émises par le corps. Et dès qu'un objet bloque ces fréquences, ça peut être un portefeuille, ça peut être une arme, même un couteau en céramique qui sont très difficiles à détecter, eh bien on va voir un contraste en fait à l'image et on va pouvoir détecter tout ça de manière extrêmement simple sans avoir besoin de passer sous ces fameux portiques de sécurité, que ce soit à l'aéroport, dans les ambassades, dans les administrations. Enfin voilà, là aussi, gain de temps conséquent pour tout le monde.
Bon, ils ont intérêt à pas se rater là avec leur machine d'après, parce que
non, alors bien sûr, non, mais après tout ça est soumis à des contrôles, tu vois. Enfin, évidemment, ça se fait pas comme ça, mais en tout cas, ça commence à être testé, notamment.
Gagner du temps et éviter quelques files d'attente. Ouais. Merci Anthony. On termine avec le bonus d'Estelle et donc le compte à rebours, hein, le nouvel album de Taylor Swift qui est attendu là dans les toutes prochaines minutes.
Et oui, dans 5 minutes à peine, hein, ça y est, c'est la sortie officielle du nouvel album de Taylor Swift. C'est bientôt finalement la fin d'un suspense interminable pour les millions de fans de l'artiste. On connaît déjà le nom de son 11e album, The Tortured Poets Department, en français le cercle des poètes torturés, pour faire patienter ses fans. Des indices avaient été disséminés avec des mots cachés dans des playlists postées par la chanteuse sur son compte Instagram. Les fans s'attendent du coup à ce que la chanteuse revienne par exemple dans cet album sur sa rupture avec son ex. Un album qui sort donc juste avant l'arrivée de la star en Europe, avec 4 dates à la Défense Arena près de Paris, du 9 au 12 mai, puis Lyon, le Groupama Stadium, ce sera les 2 et 3 juin.
À 6h, le nouvel album de Taylor Swift. Merci à tous les trois. Je remercie également Christophe qui était avec nous depuis Marseille. On ne sait pas s'il est fan de Taylor Swift, mais on n'a plus le temps. On l'embrasse, Christophe, du côté de Marseille. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal de 6h sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
Merci de démarrer ce vendredi avec nous. Il est 6h sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. La riposte d'Israël contre l'Iran ce matin. Des explosions ont été entendues dans la nuit. Au moins trois, disent les Américains. Aucun dégât majeur, assurent les Iraniens. Des vols suspendus et des sirènes entendues ce matin dans le nord d'Israël. Gabriel Attal, il veut rétablir l'autorité auprès des jeunes et cibler les élèves perturbateurs à l'école. On reviendra sur ces annonces hier soir sur BFM TV. Et puis la folie à Marseille. On va revivre cette soirée. L'aventure européenne continue pour l'OM, qualifié pour les demi-finales d'Europa League hier soir en éliminant Benfica au tir au but.
Et après le journal, cette question. Le SMIC est-il un salaire décent? Non, répond le patron de Michelin qui a calculé sa propre grille région par région. Alors qu'en pense la CGT? L'une de ses représentantes sera l'invité de Charles le matin dans 10 minutes. D'abord donc la formation de la nuit et Israël qui a entamé sa riposte contre l'Iran.
Elle était attendue après l'attaque inédite du week-end dernier de l'Iran. Ce sont les télévisions américaines qui l'ont annoncé il y a un peu plus d'une heure maintenant. La riposte d'Israël, donc Johanna Chabas, avec des frappes israéliennes, on ne sait pas combien, sur le sol iranien.
Oui, selon plusieurs médias américains, des missiles ont frappé la province d'Ispahan où se trouvent plusieurs sites nucléaires. De son côté, l'Iran confirme trois fortes explosions près d'une base militaire de la région, mais affirme que les installations nucléaires sont totalement en sécurité. Il n'y a aucun dégât majeur selon une agence de presse du pays. Le porte-parole de l'agence iranienne de l'espace déclare que leur système de défense a battu plusieurs drones avec succès et que jusqu'à présent, selon lui, il n'y a pas d'attaque de missiles. En tout cas, l'Iran a activé son système de défense aérienne et les vols commerciaux ont été suspendus dans plusieurs aéroports du pays. Une attaque qui survient alors qu'Israël avait prévenu qu'il riposterait après que Téhéran ait tiré plus de 300 missiles et drones le week-end dernier. L'armée israélienne ne donne aucun commentaire pour l'instant, mais elle annonce que des sirènes d'alerte ont été activées dans le nord du pays.
Voilà donc pour cette riposte israélienne dans le centre de l'Iran ce matin. On y reviendra évidemment plus longuement dans le journal à 6h30 tout à l'heure sur RMC. L'autre information de la nuit, ce sont les États-Unis qui ont bloqué l'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU. Condamnation immédiate de la part du Hamas et de l'autorité palestinienne. Il est 6h02 sur RMC. Et donc, Gabriel Attal veut serrer la vis à l'école en ciblant les élèves perturbateurs et en rétablissant l'autorité. Le Premier ministre l'a répété d'abord hier à Viry-Châtillon, puis dans la soirée sur BFM TV à l'occasion de ses 100 jours à Matignon et après de nombreuses affaires de violence impliquant des adolescents, Romain Cluzel.
Il faut rétablir le civisme et le respect de l'autorité. Le Premier ministre répète inlassablement son mantra et prend en exemple les proches des familles de victimes d'agression.
La principale victime de la violence des jeunes, ce sont bien souvent les jeunes eux-mêmes. Derrière, ce sont des destins qui sont brisés et des vies familiales qui sont complètement gâchées. C'est pour les jeunes qu'on s'engage.
Et parmi les pistes évoquées par le chef du gouvernement, un contrat à signer par les parents d'élèves à chaque rentrée ou encore une utilisation plus importante des internats. Gabriel Attal confirme également la mise en place d'une nouvelle sanction pour de jeunes délinquants.
Quand vous avez un jeune, un élève qui commence à dériver, on doit pouvoir lui appliquer une sanction qui est l'équivalent des travaux d'intérêt général qui aujourd'hui ne sont pas possibles en dessous de 16 ans. Ça rentrera en vigueur dès le retour des vacances de printemps.
Quant à l'accueil des collégiens de 8h à 18h, Gabriel Attal précise qu'il s'agit d'un accueil proposé, mais pas obligatoire, avec de l'aide aux devoirs ou des activités. Il sera mis en place dès la rentrée de septembre dans les quartiers prioritaires.
Le scénario du guet-apens se précise à Grande-Synthe, trois jours après la mort de Philippe, 23 ans, roué de coups sur un parking du centre-ville par deux suspects de 14 et 15 ans qui assurent, lors de leur garde à vue, assurent lui avoir tendu un piège sur un site internet. Une enquête est ouverte après l'agression au couteau de deux fillettes près de leur école dans la banlieue de Strasbourg. C'était hier. Un homme de 30 ans, interné à plusieurs reprises en psychiatrie, a été interpellé. Une collégienne a fait un arrêt cardiaque pendant le confinement par sécurité de son établissement voisin. La parole continue de se libérer dans l'armée. La suite du mouvement MeToo. Trois enquêtes sont ouvertes pour des soupçons d'agression sexuelle et de misogynie à l'école militaire de Saint-Cyr-Couette-Quidan, là où sont formés les officiers. Entre juillet et novembre l'année dernière, le général de division, commandant de l'académie militaire de Saint-Cyr, annonce un quatrième signalement ce matin dans le journal Ouest France. La parole se libère à donc Martin Caloré, correspondant de RMC en Bretagne. Martin Caloré a recueilli le témoignage d'une élève en lycée militaire qui dénonce harcèlement et misogynie.
Elle rêvait d'intégrer Saint-Cyr. Annie était même admissible, mais sa prépa au sein d'un lycée militaire l'a dégoûtée. Exemple, alors qu'elle est aperçue avec son petit ami sur le campus.
Quand toute la compagnie se réunit pour faire l'appel, le commandant me prend à part et me dit quelque chose comme « c'est toi la pute qui t'es fait sauter dans une classe ».
Certains élèves lui infligent insultes et moqueries.
C'était du harcèlement quotidien des garçons de ma classe et au bout d'un moment, c'est très très lourd.
Mais la goutte d'eau viendra en fin d'année. Elle est supposée, avec 4 autres filles, faire partie de la garde au drapeau, un honneur réservé aux meilleurs élèves.
On a eu un nouveau chef de corps, particulièrement misogyne, qui nous a dit vous vous débrouillez comme vous voulez, mais la prochaine cérémonie, je veux qu'il n'y ait plus qu'une seule fille dans la garde au drapeau. C'est à ce moment-là que je me suis dit je veux absolument partir, même si c'était mon rêve de rentrer dans l'armée. Dans ma classe, du coup, en première année, on était 10 filles, et il n'y en a qu'une qui est restée à la fin de l'année. Toutes les autres, on a décidé de partir.
Annie l'assure, la hiérarchie militaire lui a demandé de se taire pour ne pas briser les carrières des élèves harceleurs.
C'est le reflet de ce qui va se passer ensuite à Saint-Cyr.
Guillaume Ancel, ancien officier, a écrit un livre sur l'omerta qui règne au sein de la prestigieuse académie militaire.
Là, on apprend à former des officiers à faire la guerre, mais aussi à se taire. Tout ça est d'un autre siècle.
L'Académie de Saint-Cyr, elle nous explique, appliquer une tolérance zéro en cas de fait répréhensible. Un élève a même été exclu en 2023.
Je veux signaler qu'il y aura du monde sur la route ce week-end avec le début des vacances ce vendredi dans la zone B, la zone de Marseille, Nice, Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg. C'est un vendredi qui est classé orange tout autour de la Méditerranée. Et puis c'était la folie hier soir à Marseille. Énorme ambiance. Énorme ambiance après la qualification de l'OM en demi-finale de Ligue Europa au bout du suspense. Les Marseillais avaient arraché la prolongation en marquant à 10 minutes de la fin. Il a fallu aller jusqu'au tir au but pour éliminer le Benfica Lisbonne, Florent Germain.
Oui, cette saison olympienne a basculé dans l'irrationnel. Malgré un jeu bien pauvre, des blessures en pagaille et des minots appelés à la rescousse pour compléter l'équipe, l'OM a arraché sa place en demi-finale de Ligue Europa. L'attaquant olympien Pierre-Emerick Aubameyang savoure.
Ouais, scénario de dingue. Il n'y a que de la joie. Il n'y a que de la joie parce que aujourd'hui, avec les efforts qu'on a fait, je pense que c'est mérité. Tout le monde s'est battu, a donné vraiment tout ce qu'il avait au fond de lui-même. On sait que la saison a pas été simple. Mais voilà, il y a cette Coupe d'Europe qui est là, on va tout faire pour aller au bout.
Pour fêter cette qualification en demi-finale, le capitaine Samuel Gigot a même pris le mégaphone pour faire chanter le virage sud. Lui qui était fan de l'OM quand il était jeune, a fait le plein d'émotions hier.
C'est exceptionnel à titre personnel de vivre ce genre de moment. Je suis vraiment fier pour le groupe surtout. On est capable du meilleur comme du pire malheureusement. On s'accroche, on essaye de donner le meilleur. Ce soir on l'a vu, tout le monde a fini vidé, mais le plus important c'est cette qualification et ça donne de l'espoir.
L'OM se met à rêver d'un trophée européen. Il faudra d'abord éliminer l'Atalanta Bergame pour atteindre la finale.
Eh oui, demi-finale. Alors précisément, on a le calendrier. Demi-finale aller le 2 mai à Marseille. Demi-finale retour le 9 mai chez l'Atalanta, donc qui s'est qualifié hier soir comme Rome. Et les Leverkusen, ça fait un bilan de 2 sur 3 pour les clubs français cette semaine en Coupe d'Europe, puisque Lille, c'est la mauvaise nouvelle. Lille a été éliminée au tir au but hier contre Aston Villa. Scénario renversant, puisque les Anglais ont accroché la prolongation dans les dernières minutes. Et le gardien argentin, vous vous souvenez de lui, Emiliano Martinez. Il a encore été le bourreau des Français en arrêtant 2 tirs au but hier et en chambrant le public lillois comme lors de la Coupe du Monde au Qatar.
Ouais. Il s'est bien fait siffler aussi. Il avait le petit comité d'accueil quand même qu'il attendait. C'était le journal de Quentin Vinet sur RMC et RMC Story. Il est 6h08. Allez, c'est l'heure de jouer ensemble.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et on va voir si vous avez écouté attentivement le journal de Quentin. Vous savez qu'on vous offre un cadeau tous les matins dans Charles Matin. Et pour ça, il faut répondre à une question d'actualité, Estelle.
Contre quelle équipe l'OM s'est qualifié hier soir pour la demi-finale de Ligue Europa?
Allez, on vous l'a dit, vous avez forcément la réponse. Vous envoyez le mot « actu » par SMS au 732-16. Actu au 732-16. Et qu'est-ce qu'on gagne ce matin?
Eh bien, on gagne un Radio Réveil, dernier cri de la marque Muse. Si vous êtes tiré au sort, vous serez avec nous à l'antenne dès 6h20.
Voilà, c'est dans 10 minutes. Donc, il vous reste quelques minutes pour jouer, pour envoyer Actu au 732-16. Bonne chance.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore à découvrir sur muse-europe.com. À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Et dans un instant, on va parler des salaires. Comment désmicardiser la France, comme l'a à nouveau promis Gabriel Attal. C'était hier soir sur BFM TV. Et au-delà du salaire minimum, faut-il
parler plutôt de salaire décent. C'est le débat que vient de mettre sur la table le patron du groupe Michelin, fleuron français, qui a décidé de ne plus payer ses salariés au SMIC, mais de calculer un salaire décent en fonction du coût de la vie dans chaque région. Est-ce une bonne idée? On va voir ce qu'en pense la CGT. Bonjour Agathe Le Berder.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC ce matin. Vous êtes la représentante de la branche des ingénieurs, des cadres, notamment à la CGT. On en parle dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Sébastien Krebs.
Vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Il est 6h13 et on parle salaire ce matin.
L'invité de Charles Matin.
Avec vous, Agathe Le Berder, rebonjour. Vous êtes donc la secrétaire générale adjointe de l'UGICT CGT, donc qui représente les cadres, les ingénieurs, les techniciens. Comment désmicardiser la France, comme l'a promis Gabriel Attal encore hier soir? Alors, il y a un patron qui a mis, je le disais, une idée sur la table hier. C'est celui du groupe Michelin, fleuron français, 130 000 salariés dans le monde quand même. Son PDG, Florent Ménégaud, considère que le SMIC aujourd'hui n'est pas un salaire décent. Et l'entreprise a donc calculé sa propre grille de salaire minimum en fonction du coût de la vie sur chacun des sites. Est-ce que c'est une initiative que vous saluez?
Alors oui, parce que en fait le PDG de Michelin, il a raison. Le SMIC aujourd'hui, il est insuffisant pour répondre aux besoins quotidiens de la vie, puisqu'il est à 1 766 € brut. Il faudrait pour la CGT qu'il soit à 2 000 € brut par mois. Et je pense que le PDG de Michelin devrait appeler deux personnes très importantes sur ce sujet. Un, le patron du MEDEF, pour lui dire il faut un coup de pouce au SMIC maintenant, puisque le MEDEF en fait milite contre le fait d'augmenter le SMIC depuis des années.
Le SMIC a augmenté, hein, on va y revenir d'ailleurs, mais le SMIC a augmenté en fonction de l'inflation.
Oui, tout à fait, et c'est justement la deuxième personne qu'il faut que M. Ménégaud appelle, c'est Gabriel Attal, le Premier ministre, qui a toutes les marges de manœuvre pour augmenter le SMIC, qui n'a pas augmenté au-delà de l'augmentation automatique liée à l'indexation sur l'inflation cette année.
Ouais. Ça veut dire que vous êtes pour le SMIC territorialisé, c'est-à-dire en fonction des territoires, en fonction du coût de la vie, plutôt qu'un SMIC national comme on a aujourd'hui?
Alors, pas du tout. Nous, on est pour un SMIC national, un salaire minimum tel qu'il existe.
Parce que c'est ça l'innovation dans cette idée du salaire décent. C'est le salaire qui dépend des endroits où on se trouve et qui est plus élevé dans les grandes villes où la vie est plus chère.
Oui, ce que j'ai bien dit, c'est que la CGT était d'accord avec le constat que fait M. Ménégaud, le PDG de Michelin, que le SMIC est d'un niveau insuffisant. Par contre, elle n'est pas d'accord sur ses solutions. Et par ailleurs, l'histoire qui nous est racontée, la fable qui nous est racontée par le patron de Michelin, elle cache aussi des éléments qu'il n'a pas voulu nous raconter publiquement. Il y en a trois qui sont importants. La première, c'est pourquoi est-ce que la rémunération des salariés de Michelin au plus bas de l'échelle salariale dans l'entreprise est plus importante que le SMIC aujourd'hui en France? C'est pas pour rien. C'est parce que les salariés concernés, ils travaillent sur des horaires atypiques, en 2-8, en 3-8, ce qu'on appelle des équipes successives, c'est-à-dire qu'ils travaillent le matin, l'après-midi, et ils se succèdent le soir, la nuit. Ils travaillent donc la nuit, mais aussi le week-end, ce qui explique qu'ils touchent des primes qui augmentent leur rémunération. Et c'est d'ailleurs pour ça que leur rémunération est plus importante que le SMIC, et c'est le terme est très important, parce qu'on ne parle pas de salaire, et ce sont des primes qui sont justifiées.
Et que le calcul qui fait, c'est salaire plus prime.
Oui,
c'est prime inclus. D'accord.
Absolument.
Je voudrais qu'on s'arrête sur la smicardisation dont parle beaucoup le gouvernement. Il y a beaucoup de salariés qui sont rattrapés par le SMIC. Aujourd'hui, le SMIC a augmenté, on le disait, avec l'inflation, mais pas les salaires qui étaient au-dessus. Et du coup, il y a effectivement un tassement et on se retrouve avec 17% des salariés au SMIC. C'était 12% en 2021. Ça a énormément augmenté. Comment on fait pour désmicardiser, comme le gouvernement veut le faire?
Alors, pour désmicardiser, il faudrait une mesure simple qui serait l'indexation des salaires sur les prix, c'est-à-dire indexer l'ensemble des salaires de l'échelle salariale sur les prix comme l'est aujourd'hui le SMIC. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le SMIC augmente automatiquement avec l'inflation, mais les autres salaires ne suivent pas.
Alors ça, le gouvernement ne veut pas le faire.
Oui,
en disant que ça va encore alimenter l'inflation.
Mais vous savez, pire encore, le gouvernement interdit les entreprises et les organisations syndicales de négocier l'indexation des salaires sur les prix. En fait, c'est très grave. Aujourd'hui, il y a des entreprises dans lesquelles on pourrait négocier ça. Et c'est d'ailleurs déjà fait. Il y a des branches, le textile par exemple, où cela a été négocié. C'est grave qu'il y ait cette interdiction. On pourrait négocier d'indexer l'ensemble des salaires sur les prix. C'est ce qui aiderait. Le problème aussi qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont aidées, exonérés de cotisations sociales sur les plus bas salaires, ce qui les conduit à devenir addicts à ces aides publiques indirectes et à vouloir maintenir leurs salariés à des très bas niveaux de salaire pendant le plus longtemps possible.
Et d'ailleurs, Gabriel Attal le reconnaît, puisqu'hier soir, il citait l'exemple d'une entreprise qui voudrait augmenter un salarié au SMIC, l'augmenter de 100 euros, ça lui en coûte 300 ou 400, et finalement, le salarié lui-même n'est pas tellement gagnant parce qu'il va perdre sa prime d'activité, etc. Apparemment, c'est en chantier. C'est plutôt une bonne chose de s'attaquer à ces phénomènes d'exonération de charges qui finalement désincitent à augmenter les salaires.
Oui, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que Gabriel Attal n'est pas allé au bout de la logique. En fait, il n'a pas souhaité dire hier soir qu'il voulait mettre un terme à cette politique d'exonération de cotisations sociales. Ce qu'on comprend, c'est qu'il va la maintenir. Or, c'est un problème. On a aujourd'hui des entreprises dont fait partie Michelin, des très grandes entreprises qui font des gros profits, qui touchent des aides publiques indirectes via les exonérations de cotisations sociales sur les salaires, dont je rappelle qu'elles vont, y compris sur les plus gros salaires, hein, les salaires qui sont à 3 fois le SMIC, bénéficient de ces exonérations. Et ils ne souhaitent pas faire sortir les entreprises de cette addiction qu'elles ont aux aides publiques. Il faut y mettre fin, d'autant plus qu'on sait que ça rapporterait de l'argent. Au-dessus de 1,6 SMIC, toutes les exonérations qui sont versées à ces entreprises, dont elles bénéficient, ne servent strictement à rien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres et ça permettrait de financer d'autres choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand les entreprises sont exonérées de payer ces cotisations, d'autres gens payent à leur place. C'est nous, c'est vous, c'est nos impôts en fait qui payent pour que les employeurs n'aient pas à payer leur part des cotisations sociales aujourd'hui.
D'un mot pour terminer, vous avez des remontées, des négociations qui ont eu lieu dans toutes les entreprises là pour les augmentations de salaire de l'année qui a démarré.
Oui, tout à fait, notamment chez Michelin.
Est-ce qu'elles sont à la hauteur de l'inflation ?
Eh ben voilà, la question de Michelin rentre parfaitement. Les négociations annuelles obligatoires chez Michelin c'était en janvier 2024 et elles ont été très décevantes puisque l'employeur n'a pas voulu augmenter les salaires au moins au niveau de l'inflation. Ce qu'il a offert aux salariés, c'est 2% d'augmentation générale. Et encore, les cadres ne sont pas concernés. Ils ont 0% d'augmentation générale. Et ça, c'est le cas dans toutes les entreprises aujourd'hui de France, où les augmentations générales qui sont accordées ne suivent pas l'inflation, ne sont pas au niveau des 4% d'inflation qu'on connaît, même si beaucoup de salariés se mobilisent pour gagner. Par exemple, chez John Deere, il y a quelques jours, ils ont gagné 3,7% d'augmentation générale. C'est très bien, mais ça reste rare parce que les employeurs souvent proposent de la prime de partage de la valeur, la prime Macron, qui n'est pas pérenne, qui ne dure pas dans le temps et qui en plus ne
compte pas pour la retraite. Ça fonctionne, il y en a eu beaucoup des primes Macron.
Le problème, c'est que ça désincite à augmenter les salaires et ça fait partie du problème qu'on a traité tout à l'heure de la smicardisation du pays.
Merci Agathe Le Berder d'être venue ce matin sur RMC, RMC Story. Vous êtes la secrétaire générale adjointe de la branche de l'UGICT, CGT, c'est les cadres, les techniciens et les ingénieurs. Il est 6h19.
RMC, Charles Matin.
Et dans un instant, c'est la conso avec Victor Joannin. On parle de quoi, Victor, ce matin ?
Elles ont poussé comme des champignons après le Covid et depuis les Français les boudent. De quoi est-ce que je suis en train de parler ? Eh ben, réponse dans un instant.
Oula, ça c'est du teasing. À tout de suite sur RMC, 6h20.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 6h22 sur RMC et RMC Story, l'économie.
RMC, Manu Conso.
Avec Victor Joannin, ce matin, on va parler d'un moyen de transport qui était très en vogue
oui.
Et qui décline, c'est les trottinettes. Les Français achètent de moins en moins de trottinettes.
Oui, le marché confirme son repli avec 680 000 trottinettes électriques neuves vendues l'année dernière. C'est 10% de moins qu'en 2022, selon les chiffres de la Fédération des professionnels de la micromobilité. On est loin des 900 000 trottinettes vendues en 2021, avec des professionnels euphoriques qui rêvait de dépasser le cap symbolique du million. Le marché est dans le rouge en volume, mais aussi en valeur pour la première fois, c'est-à-dire que ces ventes ont baissé de 20%, ont rapporté 20% en moins, c'est une sacrée chute.
Ouais, et comment on explique ça ?
Et ben, selon les professionnels, c'est le signe que le marché est mature, c'est-à-dire que la plupart des consommateurs potentiels sont désormais équipés et une part grandissante des achats sont dits de renouvellement. Qui dit achat de renouvellement dit montée en gamme. Autrement dit, au premier achat, on découvre la trottinette. Et puis, au deuxième, on monte en gamme avec un engin plus performant, donc plus cher. Ça se vérifie dans les chiffres. Hein. Les trottinettes à moins de 500 euros qui écrasaient le marché il y a quelques années n'en représentent plus que les deux tiers. Et à l'inverse, les trottinettes à plus de 800 euros sont de plus en plus répandues. Malgré ces ventes en repli, il va falloir s'y faire hein, à ces trottinettes. Elles sont désormais dans le paysage urbain, que vous les détestiez ou pas. Il s'en est vendu, tenez-vous bien, plus de 3 millions depuis le Covid et dorénavant les Français les utilisent principalement pour se rendre au travail alors qu'il y a 10 ans c'était davantage pour se promener, pour le loisir. Là c'est devenu vraiment un moyen de transport ancré dans le quotidien, on la prend, on la met dans le RER, dans le métro ouais. Pour se rendre au travail, c'est devenu quotidien.
Et on n'a plus effectivement les trottinettes en libre service. En tout cas, dans un certain nombre de villes, elles commencent à disparaître. Elles ont disparu des rues de Paris. Maintenant, il faut avoir sa propre trottinette. Donc, il s'en vend un peu moins, mais plus cher.
Oui, notamment.
Merci. Victor Joannin, 6h24.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Allez, on va voir si on a un gagnant.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
C'est Anthony qui est avec nous au 32-16. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Comment ça va Anthony ce matin?
Ça va super, merci.
En pleine forme, c'est vous qui avez été tiré au sort pour jouer avec nous à notre question d'actualité que Estelle va vous rappeler.
Contre quelle équipe l'OM s'est qualifié hier soir pour la demi-finale de Ligue Europa?
C'était le Benfica Lisbonne.
Exactement, oui. C'était le Benfica Lisbonne au bout de cette soirée au Vélodrome, au tir au but. Bonne réponse Anthony, vous avez gagné un cadeau.
Et oui, cadeau, un réveil de la marque Muse.
Ah, excellent, pour finir la semaine, c'est super, super nouvelle.
Réveil radio qui arrive à la maison. Anthony, supporter de l'OM ou pas?
Pas du tout, des Girondins de Bordeaux.
Ah, les Girondins de Bordeaux.
Ah, ouais, c'est un peu plus compliqué cette saison. Le coup d'or est un peu plus loin. Quoi. Ouais.
On vibre un peu moins qu'à Marseille.
Ah, oui.
Salut Anthony.
Bon, vous souhaite une belle journée.
Ouais, merci beaucoup. Puis,
allez, on rajoute la coque RMC ou pas?
Allez, on
rajoute la coque pour smartphone, pour Anthony, double cadeau. Ce matin, bon courage Anthony pour la journée de boulot. Oui, on est tous ensemble ce matin sur RMC.